Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur les bonnes ondes de Radio B. On vous propose cette émission spéciale dans le cadre de la seconde édition de la quinzaine du deuil en partenariat avec l'association Couple et Famille de l'Ain. Je vais co-animer ce direct ce soir avec Lauriane, conseillère conjugale et familiale au sein de l'association. Bonjour Lauriane.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre en direct du pôle pyramide de Saint-Denis-les-Bourgs. Loredana, coordinatrice développement social local, nous le présente rapidement.
Radio B, comme bonne humeur.
Bonjour Loredana.
Bonjour Perrine, bonjour à tous les présents dans cette salle et à ceux qui nous écoutent sur les ondes. Bienvenue au Centre social Pôle Pyramide de Saint-Denis-les-Bourgs. Le Centre social Pôle Pyramide, donc, c'est une association d'habitants dont le projet est agréé par la CAF. C'est un foyer d'initiative avec des valeurs, donc la dignité humaine, la solidarité, la démocratie, une structure d'éducation populaire. Nous accueillons ici donc tous les habitants, quel que soit leur âge, que ce soit pour des projets, des activités, des sorties, de l'accès aux droits, de l'accompagnement à la parentalité, des conférences et encore plein d'autres choses que je vous invite à découvrir sur notre site internet www.pôlepyramide.fr, sur notre page Facebook ou tout simplement en venant nous rencontrer ici à Saint-Denis-les-Bourgs.
Merci Loredana.
Bonne soirée. Merci.
Comme bonne humeur.
Et donc, Lauriane, tu co-animes cette émission spéciale avec moi, car tu es à l'initiative de la quinzaine du deuil, mais tu es aussi la coordinatrice de l'événement. Alors raconte-nous comment est né ce projet.
Eh bien déjà, Couple et Famille de l'Ain est une association de conseil conjugal et familial qui est agréée par l'État EVARS, Espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Et un des sujets qui nous touche particulièrement, parce que ça touche directement la relation, c'est la question du deuil, et notamment suite à la mort d'un proche. En fait, on s'est rendu compte que c'est un sujet très tabou et qu'il n'y avait pas de lieu pour en parler. Et ça a créé beaucoup de solitude. En partant de ce constat, on a créé le Café Deuil en 2021. Il a reçu rapidement un franc succès. Puis on a eu des demandes des participants pour des conférences et des ateliers sur le thème du deuil et de la mort. D'où l'idée de la première quinzaine du deuil en 2023. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour la seconde édition.
Merci Lauriane. L'année dernière, nous avions d'ailleurs réalisé un podcast sur le vécu du deuil. Ce soir, on parle précisément du tabou du deuil et des injonctions qui sont faites aux personnes endeuillées dans notre société.
Tout à fait Perrine. Et pour en parler, nous sommes accompagnés de spécialistes du sujet, professionnels et associatifs, qui vont nous présenter leur structure avant d'entrer dans le vif du sujet. Catherine Jolivet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association Aller la vie, Alexis, une énergie pour la vie. Expliquez-nous brièvement ce que propose l'association.
Alors, Alexis, une énergie pour la vie est une association de soutien aux familles de donneurs d'organes. Donc, nous avons mis en place en 2017, après de multiples combats, un groupe d'échange ouvert aux familles de donneurs d'organes et aussi ponctuellement aux personnes greffées. Voilà, donc ce groupe d'échange traite de divers sujets liés aux dons d'organes, mais aussi, bien sûr, du deuil et de la mort.
Merci Catherine. David Périssouti, vous êtes cofondateur de l'association Parange. Bonjour David.
Bonjour.
Alors, dites-nous comment est née l'association et à qui et à quoi elle sert.
L'association Parange est née en novembre 2022. La mission de l'association Parange est d'accompagner au mieux, en tout cas, les personnes touchées par le deuil périnatal. Donc, en fait, nous avons une messagerie en ligne gratuite et nous confectionnons des coffrets que nous distribuons gratuitement aux maternités partenaires pour qu'elles les offrent aux parents qui perdent leur bébé.
Voilà. Merci, David. Catherine Duchat et Sophie Faugeras. Vous êtes psychologue au sein de l'équipe mobile d'accompagnement de soins palliatifs. En quoi vos missions sont en rapport avec le deuil et la mort ?
Alors bonjour, donc, je suis accompagnée de ma collègue Sophie Faugeras. Nous sommes toutes les deux psychologues cliniciennes et nous travaillons toutes les deux sur l'équipe mobile de soins palliatifs donc de l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Et nos missions, elles sont d'accompagner, elles sont multiples, elles sont d'accompagner les personnes en situation de soins palliatifs, de fin de vie, d'accompagner leurs proches, leurs familles, de les aider durant toute cette période de la maladie, pour les accompagner jusqu'à cette fin de vie. Notre mission aussi est d'accompagner les personnes dans la période du deuil, quand la personne est décédée. Donc on peut accompagner les personnes sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On a des missions aussi de formation auprès des étudiants, dans les écoles d'infirmières. On peut intervenir aussi auprès d'éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, d'intervenir sur des conférences aussi.
Et on rappelle que vous travaillez également en libéral, chacune de votre côté.
Oui, alors toutes les deux, on est un binôme inséparable, parce qu'on travaille au même endroit, à la maison de santé de Saint-Étienne-du-Bois.
Super, merci beaucoup.
Radio B, 90 FM.
Donc on est sur Radio B en direct du pôle pyramide de Saint-Denis-les-Bourgs pour parler du tabou des injonctions du deuil. Pour introduire notre sujet, nous avons interrogé une dizaine de personnes sur le marché de Bourg-en-Bresse en septembre.
D'après vous, comment la mort et le deuil sont-ils visibles dans notre société ?
Noir. Non, on en parle juste quand ça arrive. Je pense que il faut mieux vivre et puis pas penser à ce genre de trucs.
Ils sont relativement absents. Le deuil est encore par des psychologues, on entend parfois comment faire le deuil, etc. La mort, elle est quand même assez taboue et elle reste quand même très cachée, je trouve.
On n'entend pas beaucoup parler.
Je pense que dans les films, c'est très bien représenté. Dans la vraie vie, je pense pas qu'on en parle énormément parce que ça peut être un sujet assez tabou.
En fait, on peut pas parler ça de la société parce que il y a, je sais pas. En fait, moi, je garde ça pour moi-même mais c'est quand même un sujet tabou.
Je pense qu'il y a un tabou là-dessus. Que la mort, elle est pas assez visible dans nos sociétés.
Je pense que les gens ont du mal à en parler encore. Je crois que c'est important en fait de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Après, il n'y a pas de lieu vraiment pour ça. Je pense que les gens qui sont croyants, n'importe quelle religion, je pense que ça peut être quelque chose déjà qui aide.
Moi, je pense que c'est déjà difficile d'en parler. Les gens ont quand même une grande crainte de la mort, hein. Ce qui n'est pas illégitime aussi, puisque c'est la perte d'être cher et la séparation est toujours difficile. Après, ça dépend de quel point de vue on se place et si on a des croyances ou pas, je dirais. Voilà.
Alors, vous l'avez entendu comme nous, le mot tabou est prononcé à de nombreuses reprises. La sensation de silence ou d'interdiction d'évoquer la mort semble donc bien réelle. D'ailleurs, Catherine et Sophie, est-ce que vous constatez la présence de ce tabou dans l'exercice de votre métier ? Et est-ce que c'est un obstacle ?
Bonsoir, je vais prendre la parole du coup. Alors je dirais, en tout cas pour les personnes qu'on accompagne en suivi de deuil, ils nous en parlent souvent. En tout cas de ce tabou-là et de cette difficulté à pouvoir en parler, mais plus largement dans nos pratiques en soins palliatifs, en tout cas là ça me fait associer à ça, on remarque, pourtant on travaille à l'hôpital, mais que dans certains services ça peut être difficile aussi de parler de soins palliatifs, d'appeler l'équipe de soins palliatifs et du coup de parler de la mort. Pourtant on parle de la maladie beaucoup, mais on remarque que oui, ça peut être un sujet qui tarde à venir ou en tout cas on peut avoir du mal parfois à s'introduire auprès de certaines équipes. Effectivement.
Et d'après vous, quelles seraient les injonctions qui empêcheraient cette liberté d'expression autour de la mort ?
Alors, à mon niveau, je pense que effectivement, la mort, elle fait peur parce qu'elle est, comme on n'y a jamais été confronté, elle est irreprésentable. Et l'idée qu'on en a, c'est qu'elle est irréversible, surtout. Et je pense que voilà, c'est pour ça aussi, entre autres, qu'il est difficile d'en parler spontanément et facilement.
Oui, et je dirais qu'il y a une espèce, je ne sais pas comment dire, mais de fantasme aussi, où un peu, si on en parle trop, ça va faire venir les choses. Je crois qu'on a entendu quelqu'un qui disait ça, ou là, non, on n'en parle pas. Okay. Une espèce de truc, si on en parle, ça veut dire qu'on l'attend, ça veut dire qu'on la questionne. Enfin, du coup, bah, on évite un peu dans une espèce de désir inconscient, de peut-être que si on n'en parle pas, ça ne viendra peut-être pas. Quoi.
Mm-hmm. Et finalement, est-ce que les freins principaux, ce sont les mêmes pour les personnes en fin de vie que pour leur famille, ou alors c'est différent ?
Il me semble que pour les personnes qu'on accompagne, les personnes malades, c'est plutôt assez facile de parler avec eux. Je crois que c'est surtout quand on n'est pas confronté à la maladie, quand on est plus jeune, qu'on est en bonne santé, on la met à distance et on ne veut surtout pas en parler. Alors que quand on sent que la mort elle est proche, alors je crois qu'on ne peut pas faire de généralité, mais quand même globalement, je pense qu'on peut en parler quand même assez aisément avec les patients qu'on accompagne, avec leurs proches. Alors tout dépend aussi des deuils, comment ces familles elles ont été impactées par la maladie, par les deuils. Voilà, s'il y a eu une répétition de maladies graves ou des morts subites. Tout dépend comment les deuils ont pu s'élaborer. Et je crois que c'est ce qui fait aussi un petit peu barrage quelquefois pour pouvoir parler de la mort en fonction des traumatismes qu'on a eus dans notre histoire de vie.
Donc, plus il y aurait de traumatisme ou plus il y aurait de décès ou de maladies, et plus ce serait facile d'en parler, ou c'est l'inverse, justement ?
Je pense qu'il n'y a pas une vraie réponse à cette question. Ça dépend du vécu associé. Et effectivement, parfois, il n'y a pas de nombreux décès, mais il y a un décès potentiellement traumatique parce que des conditions particulières, et qui va laisser des traces et potentiellement se réactiver ou rendre difficile, en tout cas, la question de la maladie, des décès suivants, par exemple. Et il y a d'autres personnes chez qui les choses se sont passées, ils ont pu en parler, enfin, il y a quelque chose qui s'est fait, quoi. Et même s'il y a eu de l'accumulation, parfois, ça peut quand même rester simple. Alors, je dis simple, je pèse mes mots, hein, mais ça ne devient pas forcément traumatique, en tout cas. Donc, il n'y a pas de vraie réponse, finalement.
D'accord. D'ailleurs, Lauriane, ces tabous ne viennent pas nulle part. Tu nous expliques, c'est quoi l'historique ?
Alors, je peux déjà commencer par dire que la mort et le deuil n'ont pas été toujours tabous. En effet, pendant longtemps, le deuil était visible. Des tenues sombres, brassards, voiles, monuments funéraires majestueux, etc. D'ailleurs, selon l'INSEE, en 1975, 53% des décès avaient lieu à la maison, contre aujourd'hui seulement 23%. Maintenant, la mort, elle est médicalisée, elle est cachée dans les établissements de santé et les funérariums. Il ne faut pas oublier qu'au XXe siècle, deux grandes guerres ont endeuillé l'Europe. Ces événements ont impacté le vécu commun du deuil. À partir de ce moment-là, on rentre dans une ère de progrès médical constant et la durée de vie s'allonge. Le revers de la médaille, c'est l'impression de toute puissance de l'humain qui résonne avec un sentiment d'immortalité. Récemment, la pandémie de la Covid nous a bien montré le contraire. D'ailleurs, la gestion de cette crise, que ce soit avec la restriction des droits de visite aux malades et personnes âgées ou avec l'impact que ça a eu sur les rites funéraires, on rappelle que seulement 20 à 30 personnes pouvaient assister aux obsèques à ce moment-là. Tout ça, bah, ça nous a ouvert les yeux sur l'importance du bon traitement et l'accompagnement des mourants et de leurs proches. Pour finir avec mon long monologue, rappelons que 600 000 personnes meurent chaque année en France. Le deuil touche bien sûr les proches, famille, amis, mais aussi les collègues, les connaissances, les anciens camarades de classe. Finalement, ça veut dire que nous sommes toutes et tous endeuillés à un moment ou à un autre de notre vie.
Merci Lauriane pour ce condensé d'informations. On parle donc actuellement peu de la mort, mais en plus, le tabou peut être renforcé dans certains types de deuil. C'est le cas du deuil périnatal. Donc David, c'est quoi le deuil périnatal ?
Le deuil périnatal, c'est en fait perdre un bébé in utero, en fait, ou en fait à terme, qui naisse mort. Il est mal considéré, en fait, mal reconnu en tout cas, et surtout il est plongé dans un silence absolu. Peu de discours autour. Même les proches, en fait, ont peur d'en parler, peur d'être maladroit en fait sur ce sujet pour aborder. Et donc c'est très difficile en fait, en tout cas pour la famille en fait qui perd un bébé et qui se sent en fait seule, puisque personne ne comprend ce que, par exemple, la maman ou le papa, mais surtout et la maman sent dans ses cellules en fait, en tout cas, et le papa lui avait un imaginaire, fabriqué un imaginaire qui tombe comme un château de cartes. Et donc tout le monde voilà dit bon mais c'est pas grave, il y a des phrases en fait typiques, vous êtes jeune, vous pouvez en faire d'autres, des choses comme ça qui sont maladroite en fait, en tout cas qui blesse énormément en fait ses parents.
Moi j'ai une question, excusez-moi, du coup c'est quoi la différence entre une fausse couche du coup et le deuil périnatal, enfin est-ce qu'il y a, je sais pas, une durée, il y a quelque, ou est-ce que c'est la même chose, est-ce que la fausse couche crée forcément le deuil périnatal?
Ouais, alors en fait la fausse couche en fait c'est déterminé par rapport aux semaines d'aménorrhée, en fait c'est 12 semaines et après on passe, nous en fait on travaille à partir de 14 semaines aménorrhées.
D'accord.
Voilà, c'est ça, en fait. C'est médical, en fait. Mmh. Et parce qu'à partir de 14 semaines aménorrhées, et au-delà, nous allons jusqu'au terme, et une semaine même après le terme, en fait.
D'accord.
Et donc, nous accompagnons ces parents, comme je vous ai dit, en fait, tout à l'heure, donc avec une messagerie en ligne, pour les soutenir, en tout cas, même quand ils le savent à l'avance, Et on fait des cafés par ange, justement, okay, pour en fait, libérer la parole autour de ce sujet. Et d'ailleurs, en fait, la CAF de l'Ain subventionne en, fait, en ce moment les cafés par ange sur votre territoire. Mmh.
Tout à fait. Et David, vous l'avez bien expliqué dans vos propos, c'est que voilà, il y a vraiment ce tabou autour de ce deuil particulier. Et d'après vous, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur pourquoi le deuil périnatal reste un tabou en France ?
J'aimerais bien savoir d'ailleurs en fait pourquoi ça reste un tabou en fait. C'est assez étrange. Pour moi, si je reviens en fait en tout cas sur la mort et ce qui dans cette société n'est pas reconnu en tout cas, c'est pas tant la mort, c'est la tristesse de la personne. La tristesse des parents endeuillés en fait, qui n'est pas reconnue. Il n'y a pas de compassion. On est dans une société en fait hédoniste en fait et donc ça manque de compassion en fait. On voit la mort quand elle est spectaculaire à la télé en fait ou dans des films. Et d'ailleurs on voit des morts mais on voit pas la souffrance que ça crée derrière. On voit jamais la souffrance parce que c'est pas productif en fait, en tout cas en fait quand, et on psychiatrise très vite en tout cas ces personnes qui sont en fait en tout cas dans cette tristesse, comme si c'était une pathologie.
Mmh. Oui, on parlera tout à l'heure un peu plus en détail justement de cette injonction au bonheur et aussi de l'aspect pathologique qu'on peut mettre souvent sur le deuil. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les besoins des personnes qui vivent ce deuil ? Est-ce que c'est plutôt un soutien émotionnel ou administratif ?
Ça peut être administratif d'ailleurs. Oui, nous avons sur notre messagerie en fait des mamans qui nous contactent pour savoir comment ça marche sur leur commune, s'ils ont un carré d'enfants, comment la maternité gère ça en fait, en tout cas. Mais après, c'est surtout émotionnel en fait. Elles ont besoin de rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose. Mm-hmm. Pour se dire déjà, on n'est pas seul. Pour être sûr de pouvoir être entendu. Et des fois, ça peut être très long. Nous, on a eu en fait les premières personnes qu'on a eues sur notre messagerie. Elles avaient perdu leur bébé depuis 20 ans. Mm. Et elles en parlaient encore en fait. Parce que c'est une épine en fait qui reste dans notre corps et qui ne s'en va jamais en fait. Ouais. Et, ouais. Donc c'est émotionnel en fait.
Ouais. Justement, vous parlez de ces personnes qui viennent après 20 ans, voire plus parfois. Oui, enfin, nous, on en voit aussi au Café d'Aille. Est-ce que sur cette question du deuil périnatal, vous constatez que les mentalités, elles évoluent sur le sujet et, ou non? Ou est-ce que, et si c'est le cas, comment?
Alors, si elles évoluent, je ne sais pas comment c'était vraiment avant. Puisqu'en fait, malheureusement, on s'intéresse à ces sujets-là quand on y est confronté. Donc, je ne sais pas comment avant, mais je me rends compte qu'il y avait un vide quand même qui était énorme. Quand même. Et si c'est avant, je ne sais pas, puisqu'en fait, quand j'ai commencé, moi, à contacter les maternités, en tout cas pour leur amener un coffret avec des objets dedans, une bougie, un livre sur le deuil périnatal, des objets pour honorer la mémoire du bébé, j'aurais jamais pensé être confronté à des maternités qui refusent. Mmh. Enfin, c'est gratuit. Moi, j'ai des maternités qui m'ont dit, en fait, ça ne sert à rien ce que vous faites. C'est quand même, c'est là que je trouve qu'en fait, je ne sais pas si on va dans le bon sens ou pas.
Donc encore aujourd'hui, il y a quand même pas mal de tabous, de représentations en tout cas, autour de ce deuil particulier. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important d'en parler. Merci beaucoup, David, pour votre intervention. Avec Perrine, lors du micro-trottoir, nous avons aussi interrogé les personnes sur leur propre représentation de la mort et du deuil. On les écoute.
Et vous, quel est votre rapport au deuil et à la mort ?
J'y pense pas. Pas du tout.
Eh bien, à la mort, ça fait un peu peur quand même. Le deuil, c'est un chemin à vivre, une épreuve à franchir. Et bon, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Je fais de la méditation, donc on travaille à apprendre à mourir, en fait. Tout va vers le fait d'accepter ce qu'on ne peut pas éviter, quoi qu'il en soit.
Je ne suis pas trop attaché à ça, mais je ne m'y intéresse pas trop, en fait.
Ça me fait peur. Okay. Parce que j'ai ma mère qui a la maladie d'Alzheimer, et du coup, ça me fait peur.
Alors, j'ai jamais eu à faire face au deuil, comme personne de ma famille n'est forcément mort autour de moi ou pendant que j'étais vivante. Mais j'en ai pas peur, même si je sais que ça va être quelque chose de douloureux. Je préfère pas y penser avant que ça arrive.
Bah écoutez, j'y ai pas trop pensé. Hein. C'est vrai qu'on pense pas à la mort, hein, mais on peut être touché du jour au lendemain, quel que soit l'âge.
Le rapport à la mort dépend de nos croyances, en fait. Mais la mort aussi, c'est pas que la mort physique. Hein. C'est aussi la mort d'un état, d'une situation dans la vie de tous les jours. Et la mort, ça veut dire aussi renaissance.
C'était quelque chose de très très douloureux quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, bah, je me dis que c'est un processus logique quand ce n'est pas des morts tragiques avec des êtres jeunes, on va dire, ou des enfants. On sait bien qu'on ne peut pas garder ses proches toujours. Donc il faut profiter de la vie, profiter des bons moments avec ses proches. Et quand la mort arrive, bah, les accompagner du mieux, en pensant très fort à eux, avec plein de joie et plein de bonheur, là où ils seront. Voilà.
Donc on entend deux réponses principales, il y a l'expression de la peur et des croyances. Catherine, au sein d'Aller la vie, vous sensibilisez au don d'organes. Quelles sont les croyances et les peurs qui entourent encore aujourd'hui le don, ce don-là ?
Alors, je pense qu'il y a des gens qui pensent que... ce qui fait peur, c'est entre guillemets, de découper le corps. Hein. Voilà, il y a beaucoup de croyances là autour. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est assez violent. Alors, dans notre imaginaire, il faut bien se dire que ça l'est quand même. Hein, parce que même si les soignants nous disent que c'est une opération, et certes, le corps est parfaitement rendu à la famille, c'est une opération chirurgicale, effectivement, sauf que là, on enlève plusieurs organes, souvent. Hein, donc, pour les familles, c'est quand même légèrement différent. Alors, effectivement, je pense que le corps est parfaitement recousu et il y a beaucoup de soins qui sont apportés avant de le rendre à la famille. Mais c'est quand même pas si simple. Hein. Voilà, il y a cette croyance-là, je pense, qui perdure beaucoup. Et puis, il y a aussi des religions qui pensent qu'on ne peut pas faire don d'organes. Donc, alors qu'apparemment, toutes les religions ne sont pas opposées au don d'organes. Hein. Voilà, il y a des gens qui pensent qu'on ne pourra pas faire les rites, justement, funéraires après, Alors que ça, ben, c'est pas vrai du tout. Hein. Une fois que le prélèvement d'organes est fait, le corps est rendu à la famille. Et voilà. Mais néanmoins, je le répète, hein, pour nous, ce n'est pas vraiment comme une opération parce que on enlève tous les organes, enfin, ou beaucoup d'organes du corps de la personne.
Et justement, Catherine, que répondre aux idées reçues par rapport, bah, justement, vous nous parlez du corps, enfin voilà, de, qu'est-ce que vous répondez, vous, aux idées reçues ou aux craintes autour du don d'organes ?
Alors, ben, effectivement, il faut dire aux gens qu'ils pourront faire tous les rites qu'ils voudront une fois qu'ils auront récupéré le corps en sortant de l'hôpital. Hein. Voilà, ça ne pose pas de problème. Ce qu'il manque, notre combat, ce qu'il manque, c'est des rituels à l'hôpital. Mais j'entendais ça tout à l'heure avec l'association Parange qui offre des coffrets, par exemple, dans les maternités. Eh bien, je pense qu'il manque des choses là, dans les hôpitaux, dans ces cas de mort particulière, parce que pour un prélèvement d'organes, c'est le cerveau qui est mort. Et c'est assez compliqué pour les familles parce que notre proche est branché sur un respirateur artificiel pour que les organes soient maintenus en vie. On nous annonce qu'il est mort, c'est le cerveau qui est mort, mais on voit une personne qui semble dormir. Et là, du coup, on ne constate pas de mort, quoi. Et quand la personne part au prélèvement d'organes, on a l'impression qu'il dort. Et voilà, ça, c'est assez brutal parce que, ben, du coup, il faut que ça soit assez rapide quand même et la famille n'a pas le temps d'assimiler cette mort, quoi. Là, il y a une vraie rupture. Donc, nous, on se bat pour qu'il y ait des rituels. Et voilà, quand j'entends qu'il y a certaines maternités qui n'acceptent pas ces coffrets, ça me fait un peu... Parce que je pense que c'est ça qu'il faut, c'est réintroduire des rituels autour de ce deuil.
Mais qui auraient lieu au sein des établissements de santé, du coup ?
Eh bien, je ne sais pas, qui aurait lieu dans le cas des prélèvements d'organes, oui. Dans la chambre, enfin, je ne sais pas, autour de la personne. Et puis, surtout, quand la personne part se faire prélever les organes, c'est quand même pas qu'une opération. Voilà, on aimerait, par exemple, que les chirurgiens fassent une minute de silence au bloc. Enfin, voilà, des rituels comme ça, qui ne se font pas du tout.
Mmh. Okay. Merci, Catherine.
Pardon. Catherine, est-ce que vous constatez, justement comme la même question que pour David, est-ce que vous constatez que les mentalités, elles évoluent sur le sujet et si oui, comment ?
Alors, je ne sais pas si elles évoluent. Alors, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a un taux de refus dans la population de l'ordre qui monte, qui est à 30%, qui atteint bientôt 46%. Alors, bon... Il y a une grosse pression de la part des associations de greffés hein, qui sont en attente, bien sûr, qui, eux, sont en liste d'attente, qui incitent beaucoup sur ce taux de refus. Alors, voilà, donc il y a quand même les prélèvements d'organes, ça reste assez stable en France, mais il semblerait que les familles sont plus enclines à refuser.
Ah. Alors justement, selon Radio France, 80% des Français se disent favorables au don d'organes après leur mort, mais 47% seulement en ont parlé avec leurs proches. Donc c'est peut-être aussi une difficulté, c'est le fait d'en parler. Donc ce qu'on peut conseiller, c'est justement de le dire si on est favorable au don d'organes. C'est le meilleur moyen pour faire tomber ce tabou.
Oui, parler sauve des vies, celles des receveurs bien sûr, mais aussi celles des personnes endeuillées.
On fait une courte pause musicale.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. Je suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Voilà Dieu qui m'a faite.
Catherine, Sophie, en tant que psychologue, qu'est-ce qui vous semble important de communiquer aux personnes endeuillées pour alléger ou légitimer leur vécu de deuil ?
Alors, on peut parler des patients qu'on accompagne. Les autres, on ne sait pas trop comment ils fonctionnent, mais en tout cas, avec les personnes qu'on peut accompagner, bah déjà, je trouve que c'est très bien qu'ils viennent nous voir et qu'on ouvre nos portes pour qu'ils puissent déposer ce qu'ils ont à nous dire. Et souvent, voilà, c'est ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas dire dans leur famille, auprès de leurs proches, et que là, c'est un espace neutre. Et je crois que la parole, quand même, elle libère. Donc, ça peut faire partie de quelque chose qui peut les alléger. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent aussi alléger. Il y a la parole, mais de peut-être la marche, faire une activité qui nous plaît, de lire, d'écouter la musique, d'être dans la création. Mais pour en arriver à la création, ça veut dire que déjà on a franchi beaucoup d'étapes, et au début, après la mort d'un proche, tout ça c'est anéanti, hein. C'est les personnes, si on leur propose même d'aller marcher, il y en a qui peuvent pas franchir ce cap là donc je crois que c'est surtout de leur dire que ça va prendre du temps et qu'on va prendre ce temps ensemble et que ça peut être très long, et que c'est pas parce que c'est long que ça devient pathologique.
Oui, je crois que c'est beaucoup la question de normaliser les choses. J'aime pas ce mot, moi, mais pour autant, je crois que les gens ont souvent besoin de ça, enfin, d'entendre que oui, c'est normal que tout le monde ne le vive pas de la même façon, au même moment, exactement pareil, qu'il y ait des jours où ça va, des jours où ça va pas, que ça prenne effectivement beaucoup de temps, qu'on répète beaucoup. Les gens nous disent souvent, mais je vous ai déjà dit ça, puis je vais vous le redire. Et voilà, qui a besoin de rassurer, bah oui, on l'entendra encore et encore. Et d'ailleurs, la répétition, elle n'est jamais tout à fait la même. Mais que ça a une fonction aussi, voilà, de rassurer en tout cas sur le fait que ce qu'ils sont en train de ressentir, bah, d'autres l'ont ressenti, que nous, on l'a déjà entendu et qu'on prendra le temps. Que ça, c'est important. Oui.
Si je peux aussi un petit peu aller un peu plus loin, il y a l'histoire des pleurs. Souvent, en fait, il y a des injonctions aussi de leurs proches ou même au niveau professionnel. Bah, ça fait 6 mois, 1 an, tu devrais quand même, tu devrais plus pleurer, tu devrais aller mieux. Et nous, notre travail, c'est de reconnaître que si vous avez besoin de pleurer, bah, pleurez. Et vous avez le droit de ne pas avoir envie d'avancer, de ne pas avoir de projet. c'est de reconnaître que tout ça, c'est difficile, alors que la société, globalement, il y a des injonctions plutôt dans l'inverse, où il faut aller vite, il faut vite se remettre de la perte d'un être cher.
Il y a aussi une injonction qui existe justement sur l'expression finalement du deuil, de la douleur ou de la perte. Et parfois, les personnes peuvent aussi être complexées parce qu'elles n'arrivent pas à pleurer justement.
Oui, oui, effectivement, ça on l'entend régulièrement aussi. Enfin, là, effectivement, on peut parler que des personnes qu'on accompagne, mais régulièrement on entend des personnes qui disent « mais je suis peut-être pas si mal que ça ». Une espèce de culpabilité de ne pas aller suffisamment mal, enfin, quelque chose un peu comme ça. Oui, ça arrive aussi. Et là aussi, de pouvoir rassurer sur le fait que, encore une fois, chacun le vit à sa façon. De toute façon, on ne choisit pas comment on le vit. Encore une fois, c'est quelque chose de naturel, en fait, qui se fait à sa façon. Je crois qu'il y a autant de deuil qu'il y a de personnes qui vivent en deuil, en fait.
Oui, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que... Le deuil, c'est un processus, donc ça veut bien dire, processus, c'est quelque chose qui fait chemin et qui est très personnel et qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes. Et que dans ce processus, il y a l'idée aussi du travail, de ce qui se met au travail à l'intérieur de soi et que c'est laborieux, éprouvant, que ça prend du temps.
Et quand une personne de notre entourage se retrouve en deuil, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais mots à dire? Et quelle posture vous nous conseillez d'adopter, Sophie et Catherine?
Alors, je ne sais pas s'il y a les bons mots, mais en tout cas, dans les retours qu'on peut avoir, nous, des fois, il y a les mots, les mots maladroits, en fait, je crois. Je ne sais pas si c'est des mauvais mots, parce que ce serait un jugement un peu négatif, et c'est facile quand on a la distance nécessaire pour observer la situation. Mais il y a beaucoup de maladresses, effectivement. Mais par souci de bien faire, je crois que les proches, souvent, quand on aime quelqu'un et qu'il va mal, on a envie de l'aider, et on a l'impression qu'il faut être actif pour vraiment faire quelque chose pour lui. Et souvent, il y a des encouragements de « bon, le temps fait bien, va faire les choses, allez, il faut aller de l'avant, c'est la vie, etc. » En fait, une tentative un peu de rassurer, mais qui ne fonctionne pas du tout, très peu. Et souvent, les gens ont besoin simplement qu'on entende et qu'on accepte d'entendre qu'ils vont mal pour de vrai, et qu'en fait, on sera là encore et encore. Et les proches, c'est parfois difficile à tenir sur la durée. Voilà. Donc je pense des fois de simplement être là, d'avoir la main tendue, si c'est juste pour changer les idées, on n'est pas obligé d'en parler. S'il y a besoin d'en parler, on en parle. S'il y a besoin de répéter, on répète. Enfin, voilà, de pouvoir en tout cas adapter... les besoins sans coller à quelque chose où l'objectif, c'est forcément que l'autre aille mieux. C'est simple, juste d'être là, en fait.
Donc, rester disponible pour ses proches et à l'écoute, c'est bien ça ? Merci.
On le sait, on vit dans une société qui adore mettre les choses dans des cases, vous l'avez bien dit, et même ce qui est très profondément personnel et qui, en réalité, ne peut être quantifié, et c'est le cas du deuil.
On peut lire partout qu'il est censé durer tant de semaines, tant de mois, qu'il passe obligatoirement par certaines phases. Et si on sort de ce cadre, justement, ça peut être considéré comme pathologique. Et notre entourage peut même faire preuve d'incompréhension, ce qu'on vient de dire.
Cette incompréhension, elle est renforcée par l'injonction au bonheur qui nous est faite. On se doit d'être heureuse, heureux. Et si on ne montre pas de signes extérieurs de bien-être, même en période de deuil, on est faible, nul, raté. Pourtant, le deuil est une réaction normale à une perte irréversible. Pour chacun de vous, comment contrer ces injonctions au bonheur et accepter son état de deuil ? Sacrée question.
David ?
Premièrement, ce serait déjà en fait... bien sûr, il y a donc, comme vous l'avez dit, les personnes qui avancent malheureusement des mots maladroits, mais... On sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions et donc des fois on ne sait pas trop. Donc je pense que c'est la personne des fois qui est endeuillée d'avancer en fait, de montrer sa capacité à pouvoir en parler. Moi je vous le dis parce que je l'ai vécu avec ma fille. Ma fille a perdu 2 bébés et à son premier en fait, on était au restaurant, je me rappelle, et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit en fait, ça m'énerve, personne ne m'en parle. Personne ne me demande comment s'est passé mon accouchement, comment ceci, comment cela. Et j'ai essayé de lui dire, parce que je le vois comme ça, je lui dis, mais si toi, tu leur en parles, peut-être qu'ils verront que tu n'en as pas peur. Et que, en fait, on peut en parler et que comme ça, la parole peut en fait se libérer plus facilement en évitant peut-être des maladresses. Il y a déjà comme ça. Ensuite, c'est compliqué en fait. La parole est compliquée en fait dans cette société. On le voit partout même. Les journalistes le disent très bien. L'expression est très difficile. On a quand même une société qui est basée sur la production. Et la tristesse n'apporte aucune production. Donc elle n'intéresse pas, en fait. Alors que la tristesse, en fait, la tristesse et la joie, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. On la tient dans la main et c'est le destin qui joue avec, en fait. La tristesse, c'est quand même c'est un élan si puissant, en fait, du cœur que ça épuise le corps, en fait. Et ça nous rapproche, en fait. Vous voyez, la joie, en fait, c'est ce moment, en fait. C'est ces moments qui nous rapprochent de nos amis vivants et de la convivialité. Et la tristesse, elle est là pour aussi nous rapprocher de nos morts, en fait, de nous rappeler, nous ramène à la douleur et plein de choses. Quand on voit, en fait, par exemple, il y a plein de choses, en fait. Enfin, on pourrait parler de ça avec plein de lectures, en fait, que ce soit psychologique, sociologique, psychologique, en fait, historique. Il y a plein de... Par exemple, quand on perd quelqu'un, on passe sa journée, et quand le bruit dehors s'arrête, c'est là qu'arrivent les pensées, en fait, où on est triste.
Et dans le silence.
Oui, c'est le silence, en fait, qui fait qu'en fait, on pense, en fait, à ceux qui sont partis. Mais à ce moment-là, les cimetières sont fermés. On peut pas aller visiter en fait nos morts. Sous couvert de sécurité, il y a des caméras en fait sur la plupart des cimetières. Et ça, moi, je trouve qu'en fait, ça fait barrière en fait. Vous voyez, une société l'humanité, une société se mesure en fait, je pense, à la façon dont elle traite ses morts et dont elle prend soin des vivants qui sont blessés par les deuils. Là, je parle pour moi, mais là, je m'aperçois quand même qu'en fait, on n'est pas loin, en tout cas, de l'inhumanité, en fait, où même les morts sont casés et en fait, on ne peut même pas aller les voir. Vous savez, c'est 17h30. À 17h30, les cimetières sont fermés l'hiver, à Saint-Chamond. C'est dingue, même en sortant du travail, on ne peut pas y aller. Donc, on a une société, en fait, qui refuse la tristesse, en fait. Qui refuse de l'entendre. Et tout à l'heure, j'entendais les deux psychologues qui sont passés avant moi, qui avaient un très bon discours, j'ai bien aimé. Le DSM-5, il analyse ça, en fait, il a mis en fait, un intitulé en fait, sur la dépression par rapport au deuil. Il a appelé ça le deuil compliqué.
C'est un pléonasme, en fait. On y reviendra un peu plus tard sur au niveau pathologie.
Il n'y a pas de deuil facile, je pense.
On entend bien dans vos propos, effectivement, David, ce besoin de retrouver aussi ce contact à cette tristesse-là et de la normaliser. Est-ce que vous avez aussi des choses à partager, Catherine ?
Alors, moi, je voulais dire aussi que, effectivement, on n'a pas, quand on perd quelqu'un de proche, c'est terrible parce qu'on doit aller vers l'autre et on doit... Moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais petite. Et là, pour les enfants, c'est encore pire parce qu'on doit donner les clés à l'autre. C'est une double peine. On doit donner les clés à l'autre parce que... En plus, on se sent... On se sent honteux un peu. Je me rappelle que j'étais petite, je me sentais un peu honteuse de dire que ma maman était morte. Comme je disais, et toi, ta maman, elle fait quoi? Donc, je devais dire qu'elle était morte et en plus, donner les clés pour que l'autre... Ils me prennent pas en pitié. C'est ça qu'on ressent quand on est enfant. Donc c'est quand même extrêmement difficile, ça. Alors après, c'est pour ça que quand j'ai perdu mon fils, ça a été complètement l'inverse. Il fallait qu'on en parle tout le temps. Et là où on peut amener des choses, je dirais, positives, moi, c'est le fait d'avoir créé cette association. Parce que du coup, il y a eu plein de gens autour de nous. Et on a fait des actions qui nous permettent peut-être d'aller au-delà de cette tristesse. on construit des choses ensemble, ben on fait des marches ensemble, ou on fait ces groupes de parole, et puis on fabrique des outils là, au sein de notre groupe d'échange. Du coup, avec... moi, je voulais aussi rencontrer des familles qui avaient vécu la même chose que moi. C'était impossible de faire autrement, du coup, pour en parler de ça, de ce deuil. Et de... Alors, au-delà du don d'organes, hein, du deuil, mais aussi, mais surtout du deuil. Et on, voilà, on a essayé de construire des outils ensemble. On a fait un petit livret à remettre aux familles. Voilà, deux familles pour prendre soin d'autres familles qui ont fait don d'organes et qui vivent un deuil derrière, surtout. Voilà. Et je reviens du coup à ce que disait
David.
Oui, voilà. C'est que pareil, ces petits outils qu'on a faits, ils ne sont pas remis dans les hôpitaux. Voilà.
Il y a des vraies
barrières dans la société, effectivement. Il faudrait qu'on aille au-delà parce que c'est des actions qui portent, finalement. C'est ces choses qui peuvent... Voilà, s'il y a des actions positives qui peuvent nous faire sortir du deuil, eh ben, il faut qu'on en profite tous.
Et donc, ce qu'on entend, c'est que la parole, de manière générale, est libératrice, quel que soit le deuil qu'on
vit
et le rythme auquel on le vit, en fait.
Ben oui.
Ouais. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter.
Donc, face à ces constats, l'expression « faire son deuil », qui semble impliquer du coup la volonté de l'endeuillé et le fait qu'il y ait une fin actée, vous semble-t-elle vraiment la plus appropriée ?
Non. Non, je crois qu'il ne faut pas parler de... Ce terme ne va pas faire son deuil. Je crois qu'on ne fait pas son deuil. Quoi. À partir du moment où on a perdu un être cher, on est différent et on sera différent tout au long de notre parcours de vie. Et je crois que voilà, c'est tout un processus qui sera plus ou moins long, encore une fois, pour chacun et pas pour d'autres. On peut peut-être parler un petit peu de tentative de cicatrisation, d'apaisement, hein, pour... investir justement hein, des causes, pouvoir entrer dans de la créativité, pouvoir réinvestir aussi d'autres personnes, pouvoir à nouveau aimer quelqu'un parce que ça demande de l'énergie, un investissement d'aller vers l'autre. Et je crois que voilà, c'est comment on peut en arriver là à réinvestir la pulsion de vie. Mais faire son deuil, j'y crois pas bien. Enfin, c'est pas le bon terme en tout cas.
Je crois non plus que c'est pas le bon terme, mais en plus c'est même presque un peu délétère parfois parce que du coup les gens qui le vivent ont des moments où ils se disent mais j'y arriverai jamais pendant quelque chose, comme s'il y avait une espèce d'objectif de que ça doit se terminer d'une certaine façon à un moment donné, et alors que il y a vraiment un avant et un après, en tout cas pour les deuils de personnes proches. Et il y a tout un laps de temps où on sent qu'il y a une espèce de temps suspendu. C'est plus le avant, mais il n'y a pas encore de après non plus. Donc je trouve qu'il y a quelque chose, si on se fixe un objectif de faire, effectivement, c'est dans la même logique que la société un peu de l'action, de la performance, etc. Et ce n'est pas la logique humaine, en tout cas. Ce n'est pas le temps psychique qui ne fonctionne pas comme ça, quoi.
Je voulais rajouter, la psychologue de l'hôpital, là où mon fils a été prélevé, elle nous a dit au début, ça va être très long, effectivement, comme vous disiez, mais vous verrez, un jour, vous aurez de nouveau envie d'eux. Et quand elle m'a dit ça, je me disais, mais n'importe quoi, c'était inintendable. Et voilà, et quelques années plus tard, je lui ai écrit pour lui dire, bah oui, voilà, vous aviez raison, parce que c'est, voilà, aimer de nouveau, ou, c'est ça, il y a un moment où on a quand même de nouveau envie d'eux. Voilà.
Donc, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, on retrouve la pulsion de vie, mais qu'on ne sera jamais plus la même personne qu'avant la perte d'un être cher. Donc, on l'a dit aussi, le deuil n'est pas une maladie. Et d'ailleurs, le deuil peut-il réellement devenir pathologique ?
Catherine, Sophie, en tant que psychologue.
Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas révisé au bout de combien de temps on dit qu'un deuil est pathologique ou pas. Alors, je pense qu'il y a des critères, effectivement. Alors, moi, je l'observe pas, en fait. Je ne pourrais même pas vraiment répondre à ça, parce que, effectivement, il y a des vécus dépressifs dans le deuil, très clairement, qui correspondent aux mêmes critères qu'une dépression, très clairement, mais qui sont contextuels et qui sont quand même pas tout à fait les mêmes. Alors, il y a la tristesse, la perte d'élan, la baisse d'envie, de libido, tout ce qui va avec un peu la pulsion de vie, justement. Il y a vraiment un mouvement comme ça, un mouvement dépressif, mais qui peut quand même alterner avec des moments où il y a, je sais pas, un repas avec quelqu'un, il y a une heure où ça se passe bien, ben on est bien. il peut vraiment y avoir des mouvements comme ça. Alors que dans la dépression clinique vraiment avérée, sévère, il n'y a pas de mouvement comme ça. Quoi. La dépression, elle est toujours dans le deuil. Il me semble qu'il y a plus de mouvements. Mais il y a des vécus dépressifs qui ne sont pas pathologiques. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a des critères de durée médicalement parlant. J'imagine qu'il y a des choses, et parce qu'on a tendance à médicaliser. D'ailleurs, il y a la question après du traitement médicamenteux aussi qui se pose parfois. Mais parce qu'on a du mal à se rappeler que c'est juste normal d'aller mal quand on a perdu quelqu'un. Quoi.
Il peut y avoir quand même des facteurs de risque en fonction de l'âge, de la perte d'un être cher. Effectivement, si on perd un enfant, par exemple, des accidents graves, des disparitions, on ne retrouve jamais la personne, ou des répétitions de décès aussi. Voilà, il peut y avoir des facteurs de risque pour que voilà, le deuil devienne compliqué, complexe, voire pathologique.
Ou là, ça demande un soutien un peu plus important, et où effectivement, il faut aller consulter quelqu'un pour pas rester seul aussi avec... moi, j'aime bien dire que c'est... J'ai l'impression, en tout cas, que c'est quand c'est enkysté pendant très longtemps, et qu'en fait, justement, dont Sophie, vous parliez de mouvement, c'est où il n'y a vraiment plus aucun mouvement, et où, en fait, effectivement, on n'est plus dans ce vécu dépressif... normal dû au deuil, et où effectivement ça perdure.
J'ai juste une petite anecdote là qui me revient. Donc je suis déjà une vieille psychologue au début de mon activité. Donc il y a plus de 25 ans, je travaillais en service de neurologie dans un autre hôpital, et j'avais le suivi d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui me relatait le décès de son grand-père d'il y a au moins 6 ou 7 ans. Et il me disait qu'il mettait à la table, il mettait toujours l'assiette pour ce grand-père en attendant qu'il revienne manger avec lui. Et voilà, je crois que ce type d'exemple peut parler d'un deuil quand même pathologique. Si voilà, une dizaine d'années après le décès, on continue quand même d'installer le repas en attendant que la personne arrive, là on peut s'interroger sur quelque chose qui a pas bougé, quoi, qui est resté figé.
Voir si ça fait vraiment du bien, ou si en fait c'est une nécessité et qu'on ne peut pas faire autrement. Quoi. D'accord. Merci à vous. Et oui, David,
oui, dernière... Oui, je voulais juste citer, en fait, j'ai une petite phrase de Freud, en fait. Oui. Il disait « Il est très remarquable qu'il ne nous vienne jamais à l'idée de considérer le deuil comme un état pathologique. Nous considérons, donc il parlait de lui, qu'il serait inopportun et même nuisible de le perturber. »
Voilà, merci.
Merci à vous. On revient tout de suite après une pause musicale.
Si je vous disais que même au milieu d'une foule, chacun par sa solitude a le cœur qui s'écroule, que même inondé par les regards de ceux qui nous aiment, on ne récolte pas toujours les rêves que l'on sème. Déjà, quand la vie vient pour habiter ces corps aussi petits qu'inanimés, elle est là, telle une déesse gardienne, troupant les solitudes par centaines. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui comme l'enfant nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui, on pleure la destinée, sachant combien même géants, tout petits nous sommes. La main de l'autre emmêlée dans la nôtre, le bleu du ciel est plus bleu que celui des autres. On sait que même le plus fidèle des apôtres finira par mourir un jour. Amen.
même amitié pour toujours trouver, et même après une ou plusieurs portées, elle est là qui accourt pour nous rappeler que si les hommes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui comme l'enfant nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui, on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géants, tout petits nous sommes. Car tel un seul homme, nous avançons vers la même lumière, vers la même frontière. Toujours elle viendra nous arracher la vie, comme si chaque bonheur devait être puni.
Nous sommes toujours en direct du pôle pyramide de Saint-Denis-les-Bourgs pour évoquer les tabous et injonctions qui entourent le deuil et la mort dans notre société. Lauriane nous l'a expliqué, la perspective actuelle d'invisibilisation de la mort est récente, elle a moins de 100 ans. Pourtant, depuis une dizaine d'années, plusieurs initiatives voient le jour pour remettre la mort en lumière. Par exemple, la ville de Paris a instauré un printemps des cimetières. À Brest, depuis 10 ans, des concerts sont donnés dans le cimetière de Carfotras. En Bretagne, toujours, la coopérative funéraire organisait en septembre le premier festival de la mort à Rennes. Et nous, dans l'Ain, nous avons la quinzaine du deuil.
La Toussaint reste aussi une fête relativement suivie. On voit fleurir les cimetières. Mais d'autres cultures fêtent vraiment leur mort, comme par exemple au Mexique, où ça prend la tournure d'une fête nationale, colorée, musicale, qui peut durer jusqu'à 3 jours.
On pressent donc une volonté de revivre avec la mort, surtout depuis la crise du Covid. Alors chacune, chacun, avez-vous un souhait, une idée ici pour que la mort fasse partie de la vie ? Vaste question. Par exemple, est-ce qu'on pourrait investir les cimetières différemment, inventer de nouveaux lieux de recueillement ? On a aussi entendu parler de rituels. Est-ce qu'il faudrait une éducation à la mort, au deuil ?
Je sais pas, moi, ce qui me vient, ce que je dis souvent à mes patients, c'est de continuer de parler des personnes mortes, quoi, de continuer de les faire vivre. Tant qu'on parle d'eux ou qu'on écrit des choses sur eux, voilà, on continue de les faire vivre. Et c'est comme ça que du coup, on relie la mort et la vie ensemble.
Oui, oui, moi je rebondis là-dessus parce que voilà, nous, on a fait cette association au départ, hein, pas spécialement pour parler du don d'organes, mais pour rendre hommage à Alexis. Et donc, on fait régulièrement des manifestations, un bal pour Alexis, une journée à Mobilette. Voilà, et c'est je n'arrête pas de parler d'Alexis, moi. Voilà, c'est vraiment mon étoile maintenant. Et ça ne s'arrêtera pas.
Au Moyen-Âge, en fait, on faisait des marchés à côté des cimetières. Même presque sur les tombes, en fait. C'était vraiment, en fait, mêlé, en fait, la vie, en fait, à la mort. Donc, peut-être pas le faire sur les tombes, mais ouais, quelque chose à côté, dans le cimetière, prévoir un truc pour faire des années, un petit marché. Ouais, ce serait sympa d'amener la vie comme ça.
Nous, on boit l'apéro, hein, pour l'anniversaire d'Alexis au cimetière.
c'est Delphine Horviller, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une femme rabbin, philosophe, et qui a écrit un livre et qui dit que les cimetières, c'est la maison des vivants.
C'est un petit peu, dans ce que vous dites, c'est vraiment mettre la mort au cœur de la vie et la vie au cœur de la mort. En fait, c'est vraiment mêler les deux pour qu'il n'y ait pas cette séparation entre
Mais
les deux.
Mais peut-être, effectivement, ouvrir les débats dans l'éducation nationale, hein, peut-être en parler plus auprès des enfants, ça, sans doute, qu'il y a un long chemin à parcourir. Parce que les enseignants en parlent peu, hein, voilà. Personnellement, je peux en parler parce que je l'ai vécu et que j'en ai pas peur, justement, mais je pense que c'est pas le cas de la majorité des enseignants.
Et puis, vous parliez justement comme quoi maintenant on meurt dans nos hôpitaux. Et donc, ça nous entraîne à imaginer la mort, justement, affreuse, en fait, puisque c'est à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, c'est jamais gai, c'est jamais un moment. Revenir à le faire chez nous, en fait. En fait, avant, en fait, on veillait nos morts. Donc, en fait, il y avait de la vie, en fait, dans cette pièce, en fait, où le mort était là et qu'il attendait. Donc, je pense revenir un petit peu aux anciennes traditions, ce serait, y aurait quelque chose de bien.
Il y a quand même de plus en plus d'hospitalisations à domicile. Catherine, Sophie, si vous pouvez appuyer ce que David... compléter ce que David nous dit là.
Oui, je crois que vous le disiez tout à l'heure. Maintenant, les chiffres se sont beaucoup inversés, en tout cas par rapport aux décès à domicile, décès à l'hôpital, comparé à quelques dizaines d'années encore. Alors nous, oui, on travaille beaucoup avec le service d'hospitalisation à domicile, à l'hôpital. Et oui, il y a des personnes qui peuvent être accompagnées à domicile jusqu'au bout. Donc oui, ça peut se faire. Alors je pense qu'il y a des inégalités de territoire. Alors là, pour le coup, je ne suis pas assez bien informée pour donner des chiffres, etc. Mais c'est pas le cas partout. Voilà. Ici, oui, mais c'est pas le cas partout. Après, je suis assez d'accord, moi, sur le fait que oui, il manque sûrement de rituels, en tout cas de temps dédié à ça et de mots simples pour en parler, notamment avec les enfants. Et puis oui, de laisser un peu plus de place peut-être à la spiritualité, mais au sens large, pas forcément la religion, mais aussi la religion, mais pas que quoi, les croyances au sens large aussi, de laisser un peu imaginer des choses, que ce soit pas trop enfermant. Et pas trop. La mort, c'est pas l'échec de la vie, quoi. Enfin, dans quelque chose un peu, oui, de que ça puisse à nouveau s'entremêler. Voilà, il y aurait sûrement quelque chose, effectivement, qui pourrait bouger.
Justement, c'est un peu ce qui est compliqué avec ce don d'organes, là. C'est que c'est forcément à l'hôpital que ça se passe, du coup. Et c'est pour ça qu'il manque de rituels. Parce que, comme je vous dis, là on constate pas la mort, la famille. Hein. Quand la personne part en bloc d'opération, elle semble dormir. Voilà. Et là, c'est doublement compliqué. Du coup, s'il y a une spécificité, là, par rapport au don d'organes, c'est bien cela. C'est que ça ne sera jamais ailleurs qu'à l'hôpital. Et que pour la famille, c'est compliqué, ça, parfois.
Oui, mais malgré tout, à l'hôpital, peut-être qu'il peut y avoir des choses qui peuvent s'imaginer ou même personnellement pouvoir proposer des choses
dans la formation des soignants, enfin voilà, tout est imaginable. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien que des événements comme la quinzaine du deuil existent pour ça, pour pouvoir démocratiser ce sujet et débloquer la parole aussi autour du deuil et de la mort. Donc notre émission touche à sa fin. On remercie Catherine Jolivet, David Périssouti, Catherine Duchat et Sophie Vaugeras, Loredana et le pôle Pyramide pour votre accueil.
Merci aussi au public, à vous, chers auditeurs et auditrices.
Merci aussi à Hortense, à la technique, à toi, Lauriane, pour ta première en tant qu'animatrice radio.
Et merci à toi, Perrine, ainsi qu'à Radio B. On vous rappelle que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission et toutes les informations sur le site de Radio B.
Et on vous donne bien sûr rendez-vous en 2025 pour la troisième édition de la quinzaine du deuil.